Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du vendredi 26 octobre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres. En Centrafrique, le président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Mekassoua, a été destitué suite à une motion déposée par des députés. Marche de l'opposition RDC pour protester contre la machine à voter que les autorités comptent utiliser lors du scrutin du 23 décembre. Ici aux États-Unis, une personne a été arrêtée dans l'affaire des colis suspects envoyés à des personnalités publiques. Le procureur général saoudien attendu dimanche à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, Abdoulkarim Mekassoua a été destitué du perchoir de l'Assemblée nationale. Le président du Parlement s'est expliqué devant ses collègues sur les faits qui lui sont reprochés ayant entraîné la signature d'une motion pour sa destitution par 95 députés. Le point avec Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique à Bangui.
Oui, aux dernières nouvelles, le président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Mekassoua, vient d'être destitué du perchoir de la représentation nationale. C'était donc 140 députés, sur les 140 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, 130 étaient présents et puis 10 qui étaient donc absents ont donné mandat à leur père pour voter en leur nom. Et donc le président de l'Assemblée est destitué avec 98 voix pour, 41 contre et un bulletin nul. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale va se réunir trois jours après cette session pour élire un nouveau président.
C'était Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique à Bangui. En RDC, manifestation de l'opposition contre la machine à voter à Kinshasa et dans quelques villes de la RDC. À l'appel des opposants et quelques candidats à la présidence, des milliers de personnes ont marché sous l'encadrement de la police pour dire non à cet outil informatique que la CENI, la commission électorale, veut imposer, selon l'opposition, pour faire gagner le candidat de la coalition au pouvoir. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pendant près de trois heures, les leaders de l'opposition, au premier rang desquels Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Pierre Lumbi ou encore le candidat président de la République, Théodore Ngoy, ont conduit ensemble cette marche pacifique. De l'échangeur de Limété à la place triomphale, ses opposants ont, sous l'encadrement d'une police bien présente, conduit quelques milliers de personnes, 4000 selon la police, entre 15 et 20 000 selon les organisateurs, scandant des chants, arborant calicots, drapeaux et banderoles sur lesquels était marqué « Oui aux élections, mais sans la machine à voler ». Au point de chute, ils ont remercié les Kinois pour leur mobilisation avant qu'un groupe d'opposants n'aille déposer au bureau de la Commission électorale nationale indépendante le mémorandum rédigé pour la circonstance. Comme à Kinshasa, l'opposition a également marché pacifiquement contre la machine à voter, notamment à Bukavu, à Goma ou à Butembo. Une absence remarquable tout de même à signaler, celle de l'UDPS qui n'a pas rejoint ses pairs de l'opposition ayant opté pour des élections avec ou sans la machine à voter. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, un enseignant de l'université de Bamenda en région anglophone a été tué par des hommes armés. L'assassinat du professeur Paul Kubang Mbufong a eu lieu alors qu'il se rendait au travail, selon un communiqué du recteur. Des enseignants de l'université de Bamenda pensent que cet assassinat porte la signature des séparatistes anglophones. Les régions anglophones du Cameroun sont confrontées depuis 2016 à une crise sociopolitique. Le président gabonais Ali Bongo a été admis dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne qui n'a toutefois pas donné de précision sur la durée ou sur les causes de l'hospitalisation. La présidence du Gabon a affirmé qu'il ne s'agissait de rien de sérieux et que M. Bongo était simplement fatigué. Hier soir, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a rendu visite à Ali Bongo à l'hôpital. Il était censé participer mercredi à un panel du Forum économique à Riyad, mais n'a pas été aperçu lors de la discussion. Le gouverneur de l'île comorienne Donjouan, Abdou Salami Abdou, a été placé sous mandat de dépôt pour participation à un mouvement insurrectionnel. Ceci à la suite des affrontements de la semaine dernière entre un groupe de rebelles et l'armée régulière. Selon l'acte d'accusation, le gouverneur est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité de meurtre, rébellion, port illégal d'armes et troubles à la sécurité publique. Le fils de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, Dudu Zane Zuma, sera jugé à compter de mars pour homicide involontaire après avoir causé la mort de deux personnes dans un accident de la route. Il a comparu brièvement vendredi devant un tribunal de Johannesburg accompagné de son père. Le jeune homme de 34 ans doit aussi comparaître devant la justice le 24 janvier dans une affaire de corruption. Le 15e CIAO, la plus grande foire de l'artisanat en Afrique, a ouvert ses portes ce vendredi à Ouagadougou. À la cérémonie d'ouverture, le ministre burkinabé du Commerce, Haruna Kabore, a souligné que cette 15e édition se tient dans un contexte national et international difficile, rappelant que son pays était la cible d'attaques djihadistes qui se sont accélérées ces derniers mois dans le nord et l'est du pays. Le président burkinabé Rochmark Christian Kabore a ouvert le salon encadré par un important dispositif policier et militaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une première arrestation a été annoncée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump. Le président Donald Trump a félicité les enquêteurs. Le point avec Morgane Guériec.
Le président Trump et le ministère américain de la Justice ont confirmé l'arrestation d'une personne. Donald Trump a félicité la police fédérale pour l'arrestation de ce suspect. Les télévisions américaines ont indiqué que l'homme identifié comme César Sayoc a été arrêté en Floride et qu'il aurait une cinquantaine d'années. C'est la première arrestation dans le cadre de la chasse à l'homme lancée pour retrouver le ou les responsables de l'envoi de 12 colis suspects à des personnalités démocrates ou anti-Trump. La police a confirmé avoir retrouvé aujourd'hui deux autres colis contenant des engins qualifiés de potentiellement explosifs. L'un a été retrouvé en Floride, destiné au sénateur démocrate Cory Booker. L'autre a été intercepté dans un bureau de poste de Manhattan, adressé à CNN, à l'attention de l'ex-directeur des renseignements Jens Clapper.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que le procureur saoudien est attendu dimanche à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il a affirmé détenir des preuves supplémentaires en lien avec ce meurtre. Le point avec Talit Nanit Talani.
Dimanche, les Saoudiens vont envoyer leur procureur général en Turquie pour rencontrer notre procureur général à Istanbul, a déclaré le président Tayyip Erdogan lors d'un discours à Ankara. Cette annonce survient après que le procureur général saoudien a évoqué hier pour la première fois le caractère prémédité de ce meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. M. Erdogan a en outre affirmé que les autorités turques sont en possession d'autres éléments de preuve lié au meurtre perpétré le 2 octobre par des agents de Riyad au consulat saoudien à Istanbul. La Turquie a partagé ces informations avec d'autres pays, dont l'Arabie saoudite. Toutefois, le président turc se demande où se trouve le corps du journaliste, ajoutant qui a donné l'ordre, et il faut que les autorités saoudiennes l'expliquent.
En Jordanie, 21 personnes, en majorité des écoliers, ont été tuées à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues hier dans l'ouest du pays. Des torrents d'eau ont emporté dans la mer les adolescents qui étaient descendus de leur bus scolaire, selon une source des services de sécurité. 35 personnes ont également été blessées, dont des membres des forces de l'ordre qui participaient aux opérations de secours. Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors d'affrontements avec les soldats postés sur la frontière, ce qu'a indiqué le ministère gazaoui de la Santé. Mohamed El Nabi, 27 ans, a été atteint d'une balle dans la tête lors d'un nouveau vendredi de contestation le long de la barrière frontalière entre Israël et l'enclave palestinienne sous blocus. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectué une visite inédite à Oman, où il a été reçu par le sultan Qaboos Ben Saïd. Les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Cette visite est un pas important dans la mise en œuvre de la politique du premier ministre Netanyahou visant à approfondir les relations avec les pays de la région, a dit un communiqué de Tel Aviv. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Eric Manirakiza nous présente la Minute Éco.
La BAD accorde à la RDC un financement de plus de 121 millions de dollars pour l'amélioration de la sécurité du transport aérien. Ce projet va développer un réseau intégré de transport capable de relier tous les pôles économiques du pays. Il prévoit en 4 ans la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires d'Okindu, de Kisangani et de Mbujimayi. Il faut aussi ajouter l'acquisition d'équipements de navigation aérienne, le renforcement des capacités des personnels techniques de l'autorité de l'aviation civile et de la régie des voies aériennes et l'adhésion de la RDC au marché unique du transport aérien en Afrique. Kenya Airways inaugure dimanche prochain son tout premier vol direct vers les États-Unis. L'avion partira de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi et atterrira à l'aéroport JF Kennedy à New York. L'appareil effectuera 14 heures de vol. Le Kenya veut augmenter le nombre de touristes pour passer de 87 000 à 120 000 par an. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenté de rassurer les investisseurs étrangers inquiet de la réforme foncière. Il a assuré que les entreprises seraient épargnées. Son projet prévoit des expropriations de terres sans compensation. Parallèlement, le président Ramaphosa s'est engagé à lever 100 milliards de dollars d'investissement en 5 ans pour relancer l'économie.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Et c'est parti pour la 31e édition du Tour du Faso.
Florian Smith a enlevé la première étape courue ce matin entre Ouagadougou et Manga, longue de 100 km. Le Burkinabé Paul Domon a enfilé plusieurs maillots, dont ceux de la combativité et des points chauds. Au total, 76 coureurs répartis en 13 équipes prennent part à ce tour cycliste. Les Pays-Bas, la France, la Belgique, l'Algérie, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina Faso, qui a aligné 3 équipes, prennent part à cette 31e édition. Les étalons veulent réussir leur tour à domicile. Écoutons l'un d'eux, Mathias Sorgo.
Et nous sommes venus en tout cas ici ce matin avec le moral haut. Et nous sommes prêts physiquement et psychologiquement pour aborder cette compétition avec sérénité et récupérer le maillot jaune.
Le Tour du Faso se poursuivra jusqu'au 4 novembre avec 1200 km à parcourir en 10 étapes. La deuxième étape, Manga-Bolgatanga, 155 km, va se courir demain.
La Confédération africaine de handball a attribué ces compétitions jusqu'en 2024.
Oui, la CAB a procédé ainsi lors de son assemblée générale tenue à Abidjan en marge du 40e championnat d'Afrique des clubs champions. Le Cap Vert a obtenu l'organisation de la CAN Dame 2022. Le Maroc abritera le tournoi masculin. En 2024, la CAN masculine aura lieu en Algérie, tandis que le Sénégal organisera celle des dames.
Football, le conseil de la FIFA s'est réuni à Kigali aujourd'hui.
La FIFA a créé une commission pour étudier les projets de réforme de la Coupe du Monde des clubs et de création d'une Ligue mondiale des nations. Son président Gianni Infantino souhaite lancer une sorte de mini-coupe du monde avec la Ligue mondiale des nations qui regrouperait tous les 2 ans 8 sélections nationales. Il voudrait aussi redonner de l'intérêt à la Coupe du monde des clubs en la remplaçant par une compétition ayant lieu tous les 4 ans avec 24 clubs dont 12 européens et prenant la place de la Coupe des confédérations.
Et en basket, Détroit, c'est costaud en NBA.
Et oui, Détroit a préservé son invincibilité en dominant Cleveland 110-103, tandis que les Los Angeles Lakers, portés par l'inévitable LeBron James, ont enchaîné une deuxième victoire en 24 heures 121-114 face à Denver. Oklahoma City a concédé sa quatrième défaite consécutive face à Boston 101-95.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie, et on passe au dossier du jour. La nouvelle du jour, donc, c'est la destitution en Centrafrique d'Abdoulkarim Mekassoua du perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette destitution de Mekassoua, ancien Premier ministre et aussi leader musulman, est une surprise? J'ai posé la question à notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
C'est pas vraiment une surprise hein, pour de nombreux centrafricains, parce que déjà 95 députés, comme vous l'avez dit, avaient signé cette motion de destitution le 17 octobre dernier. Ces députés hein, qui reprochent à Abdoulkarim Mekassoua une gestion calamiteuse du Parlement, et également une gestion basée sur le planisme. Donc, en Centrafrique, hein, pour de nombreux Centrafricains, ce n'est pas une surprise.
Que disent aujourd'hui ces partisans? Quelle est leur réaction?
Une réaction officielle, pas encore, mais tout à l'heure, hein, durant les débats à l'Assemblée nationale, ces partisans qui sont aussi dans un groupe parlementaire, Chemin de l'Espérance, avaient aussi pris la parole pour appeler leurs collègues députés au bon sens hein, de penser aux conséquences de leur décision de ne pas voir hein, ce qui se passe aujourd'hui. Parce que pour de nombreux députés qui sont proches de Mekassoua, cette histoire est une histoire entre individus, ce n'est pas une histoire du Parlement, mais c'est un problème politique transposé à la représentation nationale centrafricaine. Pour l'instant, pas de réaction officielle, sauf les quelques signes qui viennent d'être entendus dans le quartier Pétatinque, le quartier dans lequel habite Abdoulkarim Mekassoua, mais pour l'instant, un calme précaire dans ce quartier et dans les alentours.
Justement, est-ce qu'on ne craint pas quand même des conséquences du fait que Abdoulkarim Mekassoua a été nommé principalement pour essayer de jouer aux équilibres entre les communautés, sachant que le pays traverse une crise assez difficile? Est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur cette cohésion?
Et justement, c'est une position qui a été démontée par les parlementaires tout à l'heure lors de leur débat. Ils ont dit qu'Abdoulkarim Mekassoua était élu à la tête du Parlement, pas parce qu'il est musulman, parce qu'il est centrafricain, parce qu'il est député. Hein, pour les parlementaires qui se sont prononcés pour cette destitution, il est important aujourd'hui, après tous ces moments de crise, de respecter les textes. C'est ce que dit la Constitution centrafricaine, mais également l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit si le président de l'Assemblée nationale fait donc objet de manquement à ses devoirs, il peut être destitué par les deux tiers des députés. Et donc, ce nombre 98 que vous avez suivi tout à l'heure dépasse largement les deux tiers pour les députés. C'est pas parce que Mekassoua est musulman qui est destitué, mais c'est parce qu'il est centrafricain et qu'il pense que sa manière de gérer le Parlement n'est pas conforme à la démocratie.
C'était Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique à Bangui.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À deux mois des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre en République démocratique du Congo, l'opposition est descendue dans la rue ce vendredi pour dénoncer la machine à voter et le fichier électoral. À l'exception de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le reste de l'opposition était mobilisé ce matin dans plusieurs villes du pays. Raissa Girondin a joint à Kinshasa Stanis Boudjekera Tiamala, directeur de publication du site en ligne actualité.cd.
À l'exception de l'UDPS, il y a les autres forces politiques de l'opposition qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. En termes de chiffres, en tout cas, la mobilisation, je dois être clair, ça n'a pas été à leur hauteur, ça n'a pas été comme attendu. On n'a pas vu tout Kinshasa s'emballer dans cette mobilisation.
Pour l'opposition, la mise à l'écart de la machine à voter, c'est un préalable pour sa participation aux prochaines élections. Mais quelles sont les alternatives proposées à cette machine à voter ?
Pour l'UDPS, il est question de dire que nous sommes prêts pour les donc ils sont prêts pour les élections et qu'ils ne sont pas dans la logique de boycott des élections. Ils ont décidé d'aller aux élections avec ou sans cette machine, avec ou sans les fichiers électoraux actuels. Mais de l'autre côté, officiellement, peut-être ils ne l'ont pas encore dit. On voit comment est-ce que leurs militants, parfois même les cadres de ces différents partis, s'entracusent. On voit comment ils s'insultent dans les réseaux sociaux. Et donc, il y a une division. Donc, il y a une partie de l'opinion qui se pose quand même des questions sur est-ce qu'il n'existe-t-il pas un duel entre Félix Tshisekedi et le pouvoir en place.
Cette marche dénonçait également des milliers d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. Comment l'opposition compte résoudre ce problème à 2 mois des élections?
C'est difficile que dans les 2 mois qui nous séparent de la date des élections, que nous puissions voir des élections. Et techniquement, à cette question, il est difficile de trouver une entente. Tout ce que les acteurs politiques peuvent faire, c'est d'aller aux élections, de préparer leur base.
Les discussions de Johannesburg doivent aboutir sur un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition. Est-ce que selon vous, il y a une garantie que l'opposition choisisse ce candidat au mois de novembre ?
Entendre certains responsables de l'UDPS, dont le secrétaire général Jean-Marc Kabound et le secrétaire général adjoint, l'ancien porte-parole Augustin Kabou, il y a des problèmes sérieux au sein de cette opposition. Et aujourd'hui, moi personnellement, je ne vois pas Félix Tshisekedi accepter de laisser la place, par exemple, à Vital Kamerhe, à Martin Fayulu, à Freddy Matungulu, qui sont encore en lice. Ça n'arrivera jamais. Et je ne vois pas non plus Vital Kamerhe, qui n'a pas soutenu Étienne Tshisekedi en 2011, soutenir aujourd'hui Félix Tshisekedi au sujet de la candidature commune de l'opposition. Je ne crois pas, ça n'arrivera jamais. Il y aura peut-être un consensus de 2 ou 3 personnes sur un candidat, mais est-ce que cela suffit?
Suite à cette marche, quelles sont les réactions du parti au pouvoir?
Le pouvoir, avec la plateforme Le Front commun pour le Congo, qui a appelé à une manifestation demain, un meeting qui s'étendra au stade Tata Raphaël. Et là, il y aura une autre démonstration des forces. C'est sûr, le pouvoir, avec tous les moyens qu'ils ont, ils vont mobiliser, et peut-être ils pourront remplir les stades Tata Raphaël. Voilà qu'ils vont dire, regardez, la population est plutôt avec nous.
C'était le journaliste Stanis Boudjakera Tiamala, joint à Kinshasa.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la vaccination en République démocratique du Congo.
Le 10 octobre dernier, les autorités congolaises ont inauguré un grand centre de stockage des vaccins près de la capitale. Elles annoncent par ailleurs un plan d'urgence visant à vacciner plus de 200 000 enfants d'ici 2020.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Michel Niemboué-Kalala, chargé de la surveillance au programme élargi de la vaccination de la RDC.
Nous parlerons des défis liés à cette politique vaccinale avec le docteur Pouema Toussaint, médecin traitant dans un centre de santé de Lumumba.
Votre santé, votre avenir est en programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Au Burkina Faso, après le Nord, c'est au tour des enseignants de l'Est de subir la menace des groupes armés. Plusieurs écoles sont fermées et certains enseignants ont fui la zone. D'après des témoignages, des djihadistes leur demandent de cesser d'enseigner le français au profit de l'arabe. Magasikoura a joint à Mathia Koali un enseignant qui dit avoir fermé son école et quitté son poste. Il a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Il y a 2 femmes qui sont venues, ils ont dit non, qu'en fait, ils sont venus demander d'après nous. Soit disant les terroristes, voilà, ils sont venus demander d'après les anciens. Bon, ils n'étaient pas arrivés d'abord. Après ça, maintenant, bon, la suppose est venue à moi, ils disent c'est comme ça, je vais replier.
Et donc, actuellement, à cause de la peur, vous n'êtes pas à votre poste?
Oui, on dit à cause de la peur. Puisque moi-même, je peux dire, j'ai croisé même ces gens-là. même si c'est à moitié. Si le lendemain matin, je repliais pour Fada.
Et vous les avez
croisés? J'ai vu le conseiller qui revenait en pleine vitesse. Si il se rendait à Kwale. Voilà, en cours de route, là, il a croisé deux personnes sur une moto, cagoulée et puis armée. Donc il m'a fait savoir que les gens la font devant. Il a dit, si c'est ça, on va prendre au moins 1h30, 2h, voir si ils vont partir. Et à ce moment-là, puisqu'on cherche le conseiller du village, j'avais appris qu'on a égorgé un conseiller là-bas, non?
Non, on n'a pas appris ça. Et ça, c'était quand?
C'était avant la rentrée.
Donc en septembre?
Voilà, fin septembre comme ça, entre le 26 en allant. Donc on lui cherche aussi. Et depuis lors, il ne dort plus chez lui.
Le conseiller pédagogique?
Non, non, non. Bon, ils travaillent pour l'administration. Ils sont contre tous ceux qui ont un lien avec l'administration.
Quelles sont les autorités qui sont encore sur place? Il y a un préfet, il y a une gendarmerie, il y a une police. Qui est là-bas?
Le maire a évacué sa famille à Fada. Le préfet, il n'est plus là-bas. Donc, c'est la police et puis la gendarmerie seulement.
Récemment, le président Kabore a dit que des mesures allaient être prises, notamment pour sécuriser l'est du pays. Est-ce que vous avez senti un changement?
Je peux dire qu'on n'a pas senti un changement parce que le problème, c'est quoi? Je vous ai dit tout récemment, je crois qu'il y a 2 ou 4 jours de cela, ils sont venus dans un village non loin de Majakwali et ils ont menacé des enseignants en disant comme quoi d'enseigner l'arabe en pleine journée, d'enseigner l'arabe. Si c'est pas ça, bon, c'est mieux de fermer.
Qu'est-ce qui se dit dans la région là-bas? Est-ce que les gens, les habitants et aussi les fonctionnaires se sentent abandonnés?
On peut le dire ça, parce que bon, c'est compliqué. Moi, je peux dire particulièrement, la région de l'Est a été abandonnée. Ça, il faut le dire.
Quand vous regardez cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette année scolaire-là?
Bon, ça va être compliqué. C'est pas évident qu'on va pouvoir rattraper ce temps perdu.
C'était un enseignant dans l'est du Burkina Faso qui a requis l'anonymat. Et on passe tout de suite aux États-Unis où, à moins de 2 semaines de l'élection de mi-mandat, des colis suspects s'invitent dans la campagne déjà bien polarisée. Des colis dits potentiellement explosifs ont été envoyés à plusieurs éminents démocrates, dont l'ancien président Barack Obama et à l'acteur Robert De Niro, très critique du président. Un suspect vient d'ailleurs d'être arrêté, mais tout cela est venu enflammer la rhétorique, même si chaque camp appelle à calmer les esprits. Un reportage de Jim Malone, le récit de Chérubin Dorsil.
Donald Trump à la Maison-Blanche a confirmé ce vendredi l'arrestation en Floride d'un suspect dans cette affaire de colis piégés et félicité les forces de l'ordre pour leur célérité et leur efficacité. Un ouf de soulagement, certes, surtout que les élections de mi-mandat arrivent dans quelques jours. La veille, dans le Wisconsin,
Donald J. Trump,
le président américain avait lancé un appel au calme.
We want...
Nous voulons que toutes les parties se mettent ensemble dans la paix et l'harmonie. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Ça va arriver.
Mais Donald Trump s'en est aussi pris aux médias. Il a écrit jeudi sur Twitter « Une grande partie de la colère que nous voyons aujourd'hui dans notre société est causée par le traitement intentionnellement inexact et imprécis des médias traditionnels que j'appelle les « fake news ». Malgré tout, il a plaidé pour la modération dans le débat politique de plus en plus passionné et passionnel des deux côtés.
Ceux qui sont engagés dans l'arène politique doivent cesser de qualifier leurs opposants de moralement défaillants. Nous devons le faire.
Les démocrates ont aussitôt rebondi, disant que le président Trump est le principal instigateur de la tension avec ses attaques partisanes. Il l'accuse de cautionner la violence et d'attiser les divisions. Bill de Blasio, maire de New York.
C'est un moment difficile pour notre nation. C'est un moment où les gens pensent qu'il y a beaucoup de haine en l'air et des incidents comme celui-ci augmentent leur douleur et exacerbent la peur.
Durant cette campagne, le président Trump a souvent agressivement attaqué les démocrates, particulièrement pendant un meeting récent dans le Montana.
Le parti démocrate est devenu trop extrême pour qu'on puisse lui remettre le pouvoir. Ses politiques radicales sont un danger pour nos familles et notre pays.
Avant les colis suspects ciblant des leaders démocrates, le président Trump avait plus l'attention tournée vers la caravane de migrants qui veut traverser le Mexique pour chercher à entrer illégalement aux États-Unis. Les démocrates répondent par une campagne acharnée pour appeler les électeurs à sortir voter massivement afin de faire la différence. L'ancien président Barack Obama a même retroussé ses manches.
The stakes are high.
Les enjeux sont élevés. Les conséquences de ne pas aller voter, ne pas faire tout ce que vous pouvez pour que vos amis, vos voisins, votre famille aille voter, les conséquences si vous restez à la maison seraient extrêmement dangereuses pour notre pays et notre démocratie.
Chaque parti cherche à mobiliser sa base à quelques jours de ce scrutin crucial. David Baker, analyste politique à American University, ici même dans la capitale américaine.
What both sides need, though,
chaque parti a besoin que ses militants sortent le jour du scrutin, traditionnellement.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Cheikh Kero et à Sidrak Franklin. Présentation Abdourahmane Dia. Excellent week-end à tous, au revoir.